Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, une rapide mise à jour sur les sorties d'histoires de succès à l'heure du confinement qui rendent impossibles les rencontres et compliquent grandement la tâche pour les interviews. Ceci dit, j'ai déjà quelques épisodes enregistrés que je vais vous diffuser dans les semaines à venir, celui-ci en est un, et mes prochaines interviews, je vais les réaliser par téléphone. Tout ça pour dire que le podcast ne s'arrête pas pendant le confinement, rendez-vous donc tous les jeudis matins à 6h du mat pour de nouveaux épisodes d'Histoire de succès. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Emeline Han, cofondatrice de PhysiMed, qui propose une sonde de rééducation du périnée connectée à une appli. Emeline est une ancienne basketteuse de haut niveau, on discute avec elle de sa découverte de l'existence du périnée, muscle inconnu et délaissé, et pourtant ô combien important. Elle nous raconte aussi comment elle en est venue à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais aussi comment elle a géré sa récente grossesse avec ses potentiels investisseurs au moment de boucler sa levée de fonds d'1,5 million d'euros. Un grand, grand merci à elle pour cette discussion et merci aussi à Marie pour la mise en relation. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Emeline. On est avec Emeline. Salut Emeline.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Ça va bien, merci à toi.
Bah, ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir dans Histoire de succès. Dis-moi si je me trompe, mais en gros, tu as fondé il y a quelques années une boîte qui s'appelle PhysiMed, c'est ça ?
C'est ça, on a fondé il y a 2 ans et demi la startup PhysiMed, en effet.
Et cette boîte a un objet, ou en tout cas produit un produit un peu particulier, qui est une sonde de rééducation pour le périnée.
Exactement. En fait, voilà. Donc, PhysiMed, en fait, veut révolutionner la vie, en fait, des femmes, notamment le contrôle de son corps et notamment avec un produit, donc, une sonde de rééducation du périnée qui s'appelle EMI et qui vient, en fait, permettre de faire sa rééducation chez soi.
Ok. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas, qui savent pas à quoi ça sert de rééduquer le périnée, je pense que c'est un truc qui arrive en particulier à un moment donné après un accouchement notamment.
Alors en fait, on en entend parler en effet après un accouchement, mais en fait, on n'entend jamais parler avant, alors que en fait, on devrait.
Ouais.
Voilà, donc en général, après un accouchement, la sage-femme nous dit, mais en fait, là, vous avez le périnée, il faudrait le rééduquer, parce que sinon, vous allez avoir des fuites urinaires, que vous allez courir, rigoler. Encore, quand on nous prévient, c'est bien, et puis parfois, il y a des femmes qui ne sont juste pas au courant, et quand elles commencent à rigoler, à courir, elles se disent, mais mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je fais pipi dans ma culotte sans le sentir, en fait.
Exactement,
c'est ça ?
Voilà. Et à ce moment-là, on se dit, mais mince, en fait, mais oui, j'ai un muscle, en fait, qui me sert à quoi ? En fait, il me sert à tenir mes organes, il me sert finalement à la posture, il me sert à plein de choses, sauf qu'on n'en a jamais parlé. Les hommes ont un périnée aussi.
C'est vrai.
C'est vraiment important, finalement, pour se tenir. Et ben moi, la première, j'étais absolument pas au courant de ça, jusqu'à ce qu'on me le dise, jusqu'à ce qu'on me prévienne. En fait, on me disait, mais attends, il y a quelque chose là, il y a un muscle hyper important, il faut s'en occuper. Et tout au long de la vie. C'est pas uniquement les femmes qui viennent d'accoucher.
Alors, je reboucle un peu là-dessus, mais t'étais même pas au courant, alors qu'en fait, t'étais sportive de haut niveau, c'est ça ? Avant de te lancer, est-ce que tu l'es encore ? Non, tu l'es plus là maintenant.
Non,
il faut que t'arrêtes à un moment donné.
Voilà. En plus, j'ai accouché d'un petit garçon il y a 4 mois, donc clairement, ça fait un an que le sport, voilà. Alors que c'est clair que le sport a fait partie de toute ma vie, depuis que je suis petite. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus étonnée quand j'ai appris, en fait, tout ce qui était lié au périnée. Je me dis, c'est pas possible que dans toute mon enfance et ma jeunesse, on n'en a jamais parlé, quoi.
Parce que je pense que les sportifs de haut niveau, notamment, on leur file, enfin, t'as un rapport à ton corps qui est un peu différent. On essaie de t'apprendre aussi à quoi servent les muscles et que voilà.
Exactement.
Quoi.
On m'a parlé de tous les muscles, à la limite. On m'a fait faire des abdos de dingue. Enfin, j'ai fait du gainage, des abdos dans tous les sens, etc. Je sens jamais qu'on me dise, mais au fait, Emeline, il faudrait peut-être protéger ton périnée quand tu fais telle ou telle chose parce que, non, en fait, je l'ai découvert quand j'avais 28 ans, quoi.
Ok, bon bah on va en parler un peu plus. L'une des questions que j'aime bien poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait Emeline quand tu avais 7-8 ans ? quand tu étais petite fille encore?
Alors, quand j'avais 7 ans, je me rappelle que ma mère y est toujours, en gros, elle m'appelait un peu Zébulon. Enfin, en gros, c'était pas très flatteur, mais en gros, je sautais un peu dans tous les sens. Je devais choisir deux activités, souvent par année. Alors, j'avais fait de la danse, de la gym, du tennis, de la natation, de la peinture sur soie, du piano. Bon, bref, à chaque fois, je me tenais. J'avais jamais eu de passion sur ces choses. Et à
ah oui, tu veux dire que tu changeais, c'est ça, à peu près?
Mais en fait, tous les deux ans, je devais choisir, mes parents me disaient choisis une activité. Alors je devais choisir une activité sportive et aussi une activité un peu
manuelle ou artistique, voilà.
Alors, faire de la peinture sur soie, alors moi je suis pas du tout manuelle, c'était une grosse erreur, mais bon, j'ai découvert à ce moment là et puis à 7 ans en fait j'ai commencé le basket. Et en fait, du coup, finalement c'est à 7 ans que j'ai découvert le basket, qui a finalement complètement construit ma vie encore jusqu'à maintenant, quoi.
Alors tu vas en parler un petit peu, mais donc tu décides juste pour retracer un petit peu, mais comment ça se passe après le collège dans ta vie ?
Alors en fait, donc du coup, je commence en effet donc à 7 ans de basket. Au collège, je vais rejoindre un sport-études en fait au basket.
Ah oui, donc t'es parti complètement dès en plus jeune âge.
Voilà, en cinquième, je suis sélectionnée dans l'équipe du Grand Est à l'époque. Et en fait, je suis détectée. On me dit qu'il faut venir à un sport-études à Besançon, parce que moi je viens d'un village en fait, enfin d'une petite ville en Franche-Comté de Haute-Saône. Bon, c'est pas très connu. Et donc me voilà aller à l'internat à Besançon dans en sport-études. Mes parents me disaient mais pourquoi, la maison c'est quand même bien, etc. T'as quand même une belle chambre. Non, je voulais aller là-bas, pas que chez moi c'était pas bien du tout, mais voilà, c'était une opportunité qu'on me donnait. J'avais envie d'aller jouer au basket. Voilà.
De jouer au basket, mais surtout de te tirer chez tes parents ou pas trop?
Non, en fait, même pas spécialement. Okay. C'était pas
du tout.
Parce
que t'étais jeune, c'est jeune quand même pour.
Voilà, j'étais jeune en effet. J'avais pas de raison majeure. J'étais très bien chez mes parents. J'ai toujours eu un environnement familial hyper protecteur. Vraiment, j'ai eu une enfance superbe. Hein, vraiment, j'avais aucune raison de partir. Mais finalement, j'avais été repérée. Pas tant, je pense, en plus pour mes compétences techniques que par finalement mon potentiel, je crois, un peu dynamique à y aller, etc. Et je crois qu'ils plutôt identifié ça chez moi, en disant mais Emeline, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'elle, on va essayer de l'amener au sport études régional de l'époque. Donc en quatrième, donc j'ai fait ma quatrième, troisième dans un sport études au collège, et puis ensuite il a fallu aller choisir un lycée, et j'ai commencé à passer des on appelle ça des sélections en fait dans différents centres de formation. Alors, j'avais Chalon, j'avais Reims, j'avais Strasbourg, et puis le projet sportif de Strasbourg était c'est dingue pour moi à l'époque, puisque c'était le projet rentrer dans le centre de formation pour rentrer dans l'équipe donc de ligue féminine de l'époque. Ça me faisait flipper,
donc le plus haut niveau, pour haut expliquer niveau, un petit peu,
voilà,
quoi.
Exactement. Ça me faisait flipper, etc. Mais mon père me dit, non mais Emeline, à un moment donné, t'as envie de jouer au basket ou pas? Si t'as envie de jouer au basket, c'est maintenant. Hein. Donc du coup, en plus, ça le rassurait un peu que j'allais à Strasbourg, dans le sens où il y avait la possibilité de continuer les études si jamais le basket n'allait pas me construire toute ma vie. Finalement, j'ai choisi Strasbourg et surtout continué à retourner à l'internat. Et là, j'étais au centre de formation du Racing Club de Strasbourg. À l'époque, ils avaient une section basket féminin. J'ai construit mes années lycée autour du basket en fait, parce que j'étais dans une classe spéciale, j'ai passé mon bac en 3 ans au lieu de 2, on s'entraînait tous les mardis et le jeudi matin, tous les soirs on s'entraînait, on avait un match le samedi et le dimanche, enfin en gros.
Ah, t'avais 2 matchs par week-end?
Oui, parce qu'en plus.
T'étais surclassé, c'est ça?
Voilà, alors en fait je jouais en effet, donc au début je jouais en cadette France, puis après quand je suis passé senior, je faisais et la ligue et l'équipe 2 parfois pour venir en renfort, enfin voilà. Donc vraiment ma vie était tourner autour de ça, et même parfois les rares fois dans l'année où l'entraînement était annulé pour quelque chose, vraiment une raison majeure, parfois on se disait même non mais attends, qu'est-ce que je vais faire ce soir en fait c'est pas prévu, normalement j'ai un entraînement de telle heure, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça rythmait mes jours, ça rythmait mon année, c'était vraiment les vacances je connaissais plus trop en fait, parce que voilà, sous contrat j'avais pas le droit d'aller au ski,
t'étais déjà sous contrat,
donc du coup voilà, je suis rentrée du coup
c'est un peu plus tard, c'est ça, quand t'es devenue pro que
voilà, mais en fait j'ai eu la chance de connaître la ligue féminine, mais j'ai fait mes premiers pas, je crois que j'avais 16 ou 17 ans.
Ah oui.
T'as pas traîné. Voilà. Et moi, c'était assez marrant parce que du haut de mes, de mes 16 ans, là, hein, parfois, on allait jouer contre Bourges, par exemple. Mm-hmm. Je devais jouer alors, à l'époque, hein, c'était des Sandra Le Drian, des Audrey Sauret. Et je savais
alors,
pas
Bourges,
si...
qui est une immense équipe de basket féminin.
Exactement, voilà. Et donc, du coup, je savais pas, quand je les avais en face de moi, est-ce qu'il fallait que je défende ou est-ce qu'il fallait que je les regarde, tu vois, c'était assez. C'est perturbant quand même.
Ouais,
mais voilà, donc c'était ma vie, les week-ends. On allait partout en France, hein, à Lille, à Brest, à Montpellier, à Pau. Enfin voilà.
D'accord. Qu'est-ce que tu as la sensation que ces études basées autour du sport et de. En fait, globalement, même cette éducation basée autour du sport t'a amené, toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, déjà à l'époque où tu étais ado, quoi.
Ouais, je pense que c'est très lié en fait. Je pense que ma vie actuelle est très liée à ce que j'ai pu vivre dans ces différentes années. C'est un sport d'équipe, c'est l'engagement, c'est la résilience, c'est tout donner pour une cause. Ça m'a beaucoup aussi appris. J'ai eu des coachs extraordinaires, surtout un qui m'a vraiment formé, qui était très très bon formateur de jeunes. Je pense que dans ma vie, j'aurais jamais plus peur de personne, tellement j'en ai eu peur de cette personne-là, quoi. J'en ai eu peur, mais d'une façon hyper positive.
Ouais.
Il tirait vraiment les gens vers le haut et maintenant voilà j'en avais
alors il tirait vers le haut en te faisant peur, c'est ça?
En fait, il était très très droit en fait. Et ouais. Donc du coup, à un moment donné, si on doit faire tel ou tel système ou telle ou telle chose, et qu'en fait tu fais non parce qu'il y a des jours t'es crevé et que franchement t'arrives pas quoi,
ouais.
Et qu'il t'envoie sur la ligne de suicide parce qu'en effet t'as fait foirer ton équipe.
Alors
voilà.
La ligne de suicide.
C'est vrai que
pour les
comme
gens
ça,
qui connaissent
c'est un
pas.
Peu compliqué. C'est vrai, c'est donc un suicide. Bon, en tout cas, ça s'appelle comme ça.
Ça s'appelle un suicide.
Mais voilà, c'est simplement courir en fait.
Je savais même pas que c'était un nom officiel parce que moi aussi j'ai fait du basket pendant longtemps et j'avais aussi des suicides à faire. Mais pour moi, c'était pas un nom.
Je sais pas si on le dit, en tout cas, nous, c'était, on le disait souvent. Ah bah, c'est-à-dire
si,
que voilà.
Moi, j'étais à Lille. Si tu veux, si on le dit aussi à Strasbourg, c'est qu'à mon avis, ça doit exister. Quoi.
Voilà. Okay. Bon, en gros, tu vas derrière la ligne, une des lignes du terrain, enfin, derrière la ligne de fond, et puis tu fais les allers-retours à une vitesse la plus rapide possible pour. En gros, c'est une punition.
Il faut
quoi.
Que tu touches toutes les lignes du terrain, en fait. Voilà.
Oui, en plus.
Et voilà, que tu reviennes à chaque fois au fond. Enfin, bon, c'est. Voilà.
En gros, c'est une punition.
Voilà.
Donc ce gars-là était m'a pas mal forgé, m'a appris aussi qu'on pouvait faire de grandes choses en étant droit, en étant concentré, en étant avec une abnégation d'un point de vue de l'équipe, et que finalement on pouvait en tirer des choses exceptionnelles. On a quand même vécu des moments, enfin voilà, des victoires compliquées, des moments d'équipe hyper importants à force de travail. Et donc du coup, je crois que voilà, ça m'a pas mal aidé aussi à voir que tout était possible, entre guillemets, ou en tout cas beaucoup de choses étaient possibles.
Ok, donc tu rentres en tant que pro, c'est ça, tout jeune âge.
Mm-hmm.
Comment se passent tes premières années en tant que basketteuse professionnelle?
Alors ça se passe bien, et en même temps j'étais jeune, donc c'était j'ai fait aussi pas mal de longs déplacements, parfois c'est hyper serré, et puis en fait t'es pas dans un bon jour, donc il y a des jours où tu connais un peu le banc par rapport au terrain, mais je veux dire c'était le jeu,
quand tu démarres en général tu joues pas trop,
voilà. Donc en effet au début c'était pas forcément évident. Après j'ai eu la chance d'être dans une équipe qui était juste, ou la machine, je sais pas, mais en tout cas, on n'était pas hyper bien classés. On avait une bonne équipe, mais par rapport aux autres, on n'était pas les premiers. Donc, en fait, la place aux jeunes était assez laissée. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quand même pas mal de temps de jeu sur ce niveau-là. Et puis à un moment donné, en fait, donc j'étais bien hein, dans ce système. Puis même après, j'ai passé mon bac et puis j'ai dû choisir. Mon père me disait, faut aller faire une école de commerce, enfin faut aller faire des prépas, etc. Et moi, je disais non, mais attends, si moi tous les week-ends je suis à Brest, à Pau, je m'entraîne tous les jours, je peux pas aller en prépa. On m'avait dit que c'était, il fallait beaucoup travailler, etc. Donc voilà, donc là j'ai vraiment fait le choix de me dire, j'ai encore envie de vivre mes années de sport à haut niveau, je reste là. Et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai eu un peu de déclic et j'ai dit non mais en fait il y a une autre vie au-delà du basket.
Quel âge?
J'avais 22 ans. Donc
c'est encore jeune.
Oui, c'est encore jeune, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, des gens me disaient, non, mais alors du coup, la semaine prochaine, il y a un jour férié, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai entraînement. Ah bon, jour férié, il n'y a pas d'entraînement? Ah oui, mince, ok. Ah, mais viens, on part au ski, etc. Ah non, je peux pas. Enfin bref. En fait, l'un demi bout à bout, je me suis dit, non, mais en fait, il y a un truc là. Moi, j'étais, du coup, je suis partie à la fac et j'avais envie de faire une partie de mes études à l'étranger, etc. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est plus compatible. Mais c'est arrivé du jour au lendemain, ça a fait assez mal en fait, hein, parce que je me suis dit, mais en fait, on est en milieu de saison et je vais devoir finir la saison, m'entraîner tous les jours et en ayant presque pas perdu l'âme, mais c'est comme un engagement de tous les instants de jouer à haut niveau. Et voilà, donc bon, c'était.
Qu'est-ce qui t'amène ce déclic? Il y a un truc en particulier, tu rencontres, je sais pas, un garçon ou un truc qui te fait dire, ok, en fait, ma vie, c'est pas tout le basket, parce que j'imagine que jusque-là. Ta vie, c'est tout le basket.
Exactement. Ouais. Voilà, ma vie tournait autour de ça.
Là, tu deviens adulte, quelque part.
Presque. Ouais. C'est même pas tant une rencontre, plutôt qu'un, finalement, je crois, un peu un projet professionnel qui commençait à, ou en tout cas des envies de bouger. Moi, j'ai toujours eu envie de bouger. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Et je me disais, mais en fait, j'étais en train de monter ce projet pour partir en Angleterre. Et je me disais, mais en fait, comment je vais faire avec le basket, etc. Et puis, je crois qu'il y a eu un peu d'alignement d'idées à un moment donné qui devait quand même être depuis longtemps un petit peu là. Je suis partie puis en vacances pour faire ce que je voulais, mes jours d'anniversaire, enfin bref, peu importe, tourner autour de ça.
Ouais. Et c'est une vie de sacrifice. Hein,
c'est une vie de sacrifice, mais sportive, voilà. Niveau, et pourtant, c'est tellement belle. Enfin, je veux dire, moi, je ne me suis jamais rendu compte que ouais. C'était jamais été dur de me sacrifier, à part à ce moment-là où je me suis dit, waouh, en fait, non, quoi. Et puis là, du coup, ben, la fin de saison, je me suis dit, stop, je pars vivre à l'étranger, je suis partie en Angleterre, et puis voilà.
Donc t'as laissé tomber.
Ben en fait le sport au niveau j'ai d'un seul coup arrêté. Et enfin je suis partie en Angleterre et en fait ce qui était marrant c'est que en Angleterre je me suis remise dans une équipe de basket mais on m'attendait pas puisqu'en fait je connaissais personne et c'est voilà et je parlais très mal anglais et en fait à ce moment-là du coup quand je suis remise dans une équipe de basket j'étais pas si mauvaise.
Pourquoi t'es partie en Angleterre sans savoir? Anglais.
Enfin, je parlais anglais, mais bon, j'étais pas fluente, je dirais. Okay, voilà, okay. Je voulais aller apprendre l'anglais. Enfin, okay. Je suis partie en Erasmus, en fait, faire une année d'études. Je le parlais pas si mal, j'ai déjà été plusieurs fois aux États-Unis faire des échanges, etc. Okay. Mais disons que voilà, je le parlais pas couramment.
Et donc, tu te retrouves dans cette équipe de basket.
À ce moment-là, c'est assez incroyable parce que du coup, d'un seul coup, sur le terrain, comme j'étais pas si mauvaise, et ben d'un seul coup, l'équipe te reconnaît beaucoup plus encore et du coup j'étais hyper bien intégrée etc et quand j'ai réalisé ça c'était assez marrant. 2 ans plus tard je suis partie en Espagne vivre et en Espagne j'ai rejoint une équipe de basket
c'est des équipes amatrices à chaque fois
complètement, voilà. Complètement.
Donc forcément toi t'arrives et t'as un super niveau
voilà en fait mais bon tu arrives pas en train de te dire ouais j'ai joué en machin tu dis rien en plus moi j'étais en train de faire un espèce de deuil hein, de ma vie d'avant donc j'avais pas envie de que les gens sachent tout ce que je faisais avant.
C'est tellement drôle.
Et le basket m'a amené à vivre un truc extraordinaire aussi, et c'est l'école de la vie pour moi. Quand j'étais en Espagne, j'ai voulu intégrer une équipe de basket, et en fait, je suis tombée par hasard sur le championnat en fait d'Amérique latine. J'habitais Barcelone, et en fait, j'ai rejoint l'équipe bolivienne. C'est parce que je regardais des petites annonces, etc. Enfin bref, je me suis retrouvée. J'avais envie de participer, faire du basket, et là, je suis arrivée dans une équipe de nénettes vraiment incroyable. Elles étaient là, c'était un peu la communauté en fait, parce que les communautés se rassemblent. Elles étaient là en Espagne parce qu'elles avaient quitté la Bolivie parce que c'était compliqué dans leur pays, parce qu'elles recherchaient une vie meilleure en fait. Et moi je suis arrivée et en fait j'avais pas forcément de chaussures de basket, etc. Et elles me disaient non mais viens et tout, on va t'acheter des chaussures. Elles m'ont amenée à Decathlon, elles voulaient m'acheter des chaussures alors qu'elles venaient elle c'était un peu un sacrifice pour elle parce que je dirais elle avait 3 boulots dans la journée etc. Enfin bref, donc pour dire que le basket m'a amené en fait à rencontrer des gens assez incroyables et j'ai découvert vraiment aussi la bonté de ces personnes. Même quand je suis partie de l'Espagne elle me disait non mais il faut que tu reviennes le week-end et tout, paye les billets. Enfin, bref, c'était pas possible mais voilà,
juste pour venir jouer
mais l'aventure humaine a été extraordinaire. En plus je me disais bon, alors pour le coup je parlais vraiment pas espagnol, autant l'anglais je parlais un peu, autant l'espagnol je parlais vraiment pas. Je me dis oui bon tout le monde parlera un peu anglais mais là ces personnes là non, et donc, du coup c'était du bref, on arrive à communiquer et non, c'était chouette comme histoire.
Voilà. Okay.
Là, le basket, c'est pour ça que je dis qu'il a vraiment un peu dragué.
Qui a un peu structuré ta vie aussi, quoi. Même quand t'as décidé d'arrêter à haut niveau, quoi.
Voilà, exactement. Oui.
Très bien. T'as quel âge à ce moment-là? 25
Oui, c'est 25 ça, exactement, 25 ans. Je crois que je reviens d'Espagne, en effet. J'avais 20, peut-être 26 ans. Voilà, je finissais mon master. Voilà.
Tu sais, t'as fait un master de quoi?
T'en de as biologie.
Pas... Voilà. Ok.
Voilà, j'aimais bien le rapport au corps, à la santé, et j'avais envie de découvrir un petit peu comment fonctionnait notre corps. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait des études en sciences de la vie.
D'accord. Voilà.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as terminé tes études?
Alors quand j'ai terminé mes études, en fait, je commence à vouloir travailler justement en recherche en biologie. Et puis en fait, je me rends compte vite que la recherche, c'est pas pour moi. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai toujours voulu faire une école de commerce. En fait, pourquoi je suis allée vers la biologie? Parce que j'avais cette curiosité de comment fonctionne le corps, etc. Mais en fait, je veux faire une école de commerce. Donc du coup, je plaque tout et je viens à Paris justement faire une école de commerce. Donc je vais aller à l'ESCP là, ouais, faire un master spécialisé en management, donc des industries de santé, comment ils appelaient ça.
Ah oui, donc tu restes quand même dans le domaine de la
mais
santé.
Mais toujours dans la santé, voilà.
Qu'est-ce qui fait que tu as envie en particulier d'aller dans ce domaine et de rester dans ce domaine?
En fait, j'avais envie à ce moment-là déjà de créer quelque chose. En fait, j'ai hésité à faire le master spécialisé entrepreneuriat. Ah. Et à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée. En fait, mais je sentais au fond de moi, il y avait un truc qui bouillonnait, je sais pas. J'avais envie de faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs à l'issue de ce master, en fait, que j'ai eu l'opportunité d'avoir un job à Strasbourg pour accompagner des startups en santé. Qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, là, j'ai une idée. Enfin, c'est venu avec un de mes amis de l'époque, Julien, que j'avais rencontré par ailleurs en bio.
Okay.
Et on se dit, mais en fait, dans le sport, il y a plein de gens, j'ai plein de copains qui s'est fait des ruptures des ligaments croisés. On s'est dit, on va faire une attelle connectée pour ces sportifs. Parce que comme ça, ils pourront se rééduquer plus vite. C'est quand même la blessure un petit peu
blessure
difficile.
Qui tue, ouais, parce que tu en as pour plusieurs mois de rééducation.
Voilà,
c'est
et donc,
super
du coup,
dur.
Ça tue une saison. Quoi, donc c'est quand même compliqué. On était contents, c'était super notre idée, on fait un hackathon, donc enfin, tout un week-end, on fait ça.
Alors hackathon, pour les gens qui ne connaissent pas.
Ah oui, hackathon, ah, il faut... coup, ouais, bien sûr. C'est durant donc, tout un week-end, on pitch une idée un vendredi soir devant une assemblée de personnes, et c'est des personnes qui sont intéressées à rejoindre des projets, et en fait, il y a donc une cinquantaine de personnes qui pitchent des projets, et eux vont choisir le projet qu'ils ont envie de rejoindre pour travailler dessus tout le week-end. Donc on a la chance de finalement, on passe le week-end à travailler sur notre super projet d'attelle connectée pour le genou.
Je sens, comme tu le racontes, que ça n'a pas trop marché.
Eh bien en fait, voilà, donc en fait, ça, on a été, enfin, à la fin, on pitch, on a des prix en fait à la fin, et on nous dit, bah, super, vous avez des prix, il faut aller sur le terrain maintenant, il faut aller tester votre idée. Donc on va en fait... voir des kinés en fait, puis on leur dit regardez notre idée sur le genou, c'est quand même vachement bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous disent ouais bon ok, c'est intéressant votre histoire du genou, mais en fait on a une autre problématique qui est majeure, c'est la rééducation du périnée. On a 3 millions de femmes incontinentes en France, c'est complètement tabou, mais une femme sur 10 a des problèmes avec ce muscle. Elles rééduquent pas leur périnée chez elles n'arrivent pas à le faire. Si vous pouviez changer votre histoire de genou là sur le périnée, ce serait quand même vachement bien.
Ah ouais, donc ça vous vient directement du terrain, en
exactement,
fait.
Exactement, c'est pour ça que j'ai dit au début, j'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Okay. Parce qu'en fait, au début, on nous dit ça, bon, je me dis, allez, c'est une petite lubie d'un kiné dans le coin. Puis en fait, il y a plusieurs kinés qui nous disent ça. Et alors là, je me dis, mince, je commence à sortir chez moi, je vais interroger des femmes d'âge différent. Et en fait, il y a des femmes que je connais, qui sont très propres sur elles, etc., très bien. Et puis je leur dis, bon voilà, on a une idée, c'est ça. Et là, elles nous disent, mais oui, non, mais vous savez pas, j'ai eu un prolapsus, donc c'est une descente d'organes, hein, les organes descendent dans le corps, c'est assez. Quand même important comme problème, et il faut se faire opérer, remonter les organes, enfin bref, c'est vraiment compliqué, personne n'en parle, sujet complètement tabou. À ce moment-là, on se dit, bon bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le genou? Est-ce qu'on fait le périnée? on était entre deux, voilà.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la limite, c'est... j'avais 3 associés hommes à l'époque. Enfin, on n'était pas encore associés, mais en tout cas, ça allait devenir.
Et donc, et... en gros, vous étiez rencontrés pendant le fameux hackathon.
Voilà, pendant le hackathon, c'est ça. Okay. Pendant le hackathon, on l'a rencontré. Le kiné, on l'a rencontré. On a fait des petites annonces. Bref, il avait répondu. Enfin.
Ah oui, donc vous aviez recruté un kiné aussi. Voilà, pour, c'est en ça. Tant qu'associé potentiel.
Oui, voilà.
C'est ça
okay, d'accord. Et en fait, il jouait au rugby. Et bon, entre temps, du coup, j'ai changé. Je jouais plus au basket, je jouais au rugby. Okay. Et du coup, on partageait assez les mêmes valeurs du rugby, de l'engagement, du partage, etc. Et donc, du coup, on a eu un bon feeling. Du coup, voilà, et les 3 mecs me disaient « Non, mais attends, c'est plus facile d'aller sur le genou, il y a un énorme marché, il y a vraiment un problème de santé publique, maintenant, il faut y aller. » Moi, j'étais là « Oui, bon, il faut quand même le vouloir de porter un projet, du coup, en se disant « Je vais faire une sonde de rééducation du périnée. » Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, s'il n'y a que moi qui me pose ces questions-là et que les 3 mecs, ils n'ont aucun problème, allez, on y va, quoi. » Et depuis, du coup, j'ai pris ce projet à cœur.
Allez, on y va,
et,
donc tu te dis juste « Bah, désolé, les gars, j'y vais tout seul, c'est ça ?»
Ah non, on se dit, à 4, on se dit « Mais on a, okay. En fait, eux, ils disaient, il faut vraiment aller sur le Périnée.
Ah,
quoi.
Ok, d'accord, j'avais pas compris.
Non, les 3 étaient vraiment, ils disaient, mais c'est plus facile. Enfin, le marché, il est là, du Périnée, okay. On sait faire, on y va, quoi.
Okay.
Je disais, bon, bah, d'accord, ok. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a donc pivoté, comme on dit, dans le monde des startups.
Le milieu des startups.
Voilà. Et on a commencé à faire, donc, on a fait des protos, etc. Puis un jour, on s'est dit, bon, maintenant, on a quand même gagné quelques prix. On s'est dit, maintenant, on se lance, c'est parti. On fait notre centre de rééducation du Périnée pour que toutes les femmes puissent faire leur rééducation chez elles, tranquillement, en toute intimité, avec un produit qui est. C'est un dispositif médical, hein, qui est normé, qui est développé par le professionnel de santé, etc. Et voilà.
Alors tu vas un peu vite parce que là t'es quasiment en train de raconter la fin, j'ai un peu
l'impression.
Mais en fait j'imagine que c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il faut créer le prototype, il faut comment ça se passe, comment vous décidez d'aller chercher les gens, le bon industriel, j'imagine.
Oui, oui. Alors c'est vrai qu'au début on se dit est-ce qu'on commence vraiment, est-ce qu'on fait un produit de zéro, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis bon, on commence à faire quelques protos et puis on voit que c'est grâce à ces premiers prototypes qu'on commence à gagner quelques prix, donc un peu d'argent. On gagne 80 000 euros notamment d'une société de composants électroniques qui nous aide à du coup avoir vraiment le premier proto. Et on se dit bon bah ok, on a déjà quitté nos sociétés et nos jobs respectifs, parce que ça faisait un an et demi qu'on bossait le soir et le week-end chez moi, avec des post-it partout, etc. Enfin voilà.
Ah, j'imagine.
Et du coup, on...
Vous quittez votre job.
On quitte en fin 2016. On crée la société en avril 2017.
Ok.
Ensuite, on se dit, bon, bah, ok, maintenant, on fait un premier proto et il fallait qu'on lève des fonds. Et sauf qu'en fait, les fonds, il y a quand même majoritairement des hommes. Et donc, même si on arrivait avec notre statistique, une femme sur 10 a des problèmes du périnée, etc., ils nous disaient, ouais, bon, prouvez-nous qu'il y a un marché. Donc, on a fait une...
Pardon, je ris, mais bon, en tant que boss de Mademoiselle, si tu veux, c'est le genre de truc que j'entends tous les jours et qui est très fatigant. C'est-à-dire que les mecs ont beaucoup de mal à se projeter dans tout ce qui les concerne pas d'une manière générale. Et alors, dès que ça peut toucher à l'accouchement d'une manière générale, et puis aussi des problèmes qui les touchent pas directement, et le périnée, mais pareil pour les règles, pareil pour, voilà.
Exactement. C'est okay. Compliqué. Donc ils nous disent prouvez-nous. Donc on fait une campagne de crowdfunding.
Ok.
On démontre qu'il y a des femmes qui sont capables d'acheter le produit, qui veulent et qui en ont besoin.
Vous en vendez combien ?
On avait fait une petite campagne, on en a vendu 250, je crois. Okay. Et puis, c'était vraiment pour une sphère qui nous a demandé les investisseurs. Ils nous ont dit prouvez-nous simplement qu'il y a des gens qui veulent acheter. On réussit notre campagne et à ce moment-là, du coup, ils disent ok. D'accord, pour mettre l'argent sur la table. Et du coup, on fait notre première levée en janvier 2018, donc de 600 000 euros, qui permet de financer tout ce qui est donc moule, électronique, industrialisation, enregistrement médical, puisqu'il fallait quand même qu'on passe tous ces tests des dispositifs médicaux. Et puis, qui nous a permis de lancer commercialement le produit. Du coup, donc, on lève en janvier, on fait le produit, et en octobre, on lance notre produit sur le marché. Voilà. Donc, en octobre, on vend depuis octobre 2018.
Ok. C'est quoi les différentes étapes qu'il y a eu entre ce moment de la première levée de fonds et le moment où vous levez ? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans l'histoire de la boîte ?
Ouais, alors il y a plein de moments, c'est-à-dire que il y a le moment du développement du proto fonctionnel. On se dit mince, faut vraiment qu'on le fasse tester ce proto. Sauf qu'en fait notre proto, c'est pas évident de le faire tester. C'est encore un effet de proto filaire, et donc faut trouver des personnes qui veulent bien le faire. Donc on essaye de trouver une communauté d'ambassadrices de façon assez incroyable. Finalement, on arrive à réunir une centaine de personnes qui veulent bien tester le produit, qui était un produit franchement le bois de recharge qui était quelque chose d'imprimé en 3D. Quand je vois ce qu'on a fait tester aux femmes, franchement c'est trop trop bien qu'elles elles nous aient aidé en fait à développer ça, mais c'était assez épique.
Mais tu crois qu'elles ont voulu bien vous aider parce que justement il n'y avait pas d'équivalent sur le marché, il y avait peut-être ce truc là aussi?
Ah, clairement, je pense qu'il n'y avait pas d'équivalent, elles cherchaient une solution. Les premiers qu'on a vendus, notre campagne de crowdfunding, je suis aussi hyper quand je regarde le proto qu'on avait à l'époque et on a réussi à vendre l'idée de la sonde, à quoi elle ressemble maintenant, c'est incroyable quoi. C'est, on se dit mais vraiment les gens étaient vraiment en demande de ce genre de produit et le marché en avait besoin. Et puis voilà, là, toute la phase aussi avec les industriels, parce que quand on va voir des industriels qui là pour le coup c'est encore un autre niveau, mais un peu comme les investisseurs quand on vient avec ce produit là on arrivait toujours, Julien et moi, donc l'ingénieur hardware et moi, et je pense qu'on faisait une bonne équipe. On était, c'était du coup un binôme mixte. Franchement, on aurait créé la boîte avec 4 nénettes, on aurait dit oui, on veut révolutionner la vie des femmes. On nous aurait dit bon, ok, c'est gentil, mais voilà, revenez plus tard.
Ah, tu crois vraiment?
J'ai l'impression.
Ouais.
Par contre, le fait qu'on était une équipe mixte, ouais, portée par une femme, avec la caution des gars derrière qui avaient envie de le développer et qui avaient la compétence pour le faire, je pense que ça a été une de nos forces. Mm-hmm. Et je pense que ça l'est encore à l'heure actuelle. Vraiment, notre équipe est maintenant les 12 personnes. On est vraiment une équipe mixte. Et je pense que ouais, c'est ça qui nous a fait avoir une crédibilité. Il fallait trouver des industriels qui nous suivent. On a été vraiment beaucoup soutenus.
Donc ça fait maintenant, vous avez levé plein de sous depuis, parce que je me suis...
Alors en fait on a levé donc 600 000 en janvier,
ouais.
On a lancé commercialement en octobre 2018 et en fait on a commencé à bien se développer, on a commencé à même avoir des opportunités internationales alors qu'on n'imaginait pas que ça allait si vite, et donc du coup on a relevé 1,5 million en septembre dernier.
Waouh.
Voilà.
Voilà, ça rigole plus.
Bah là, du coup, on est en, voilà, en pleine phase d'accélération.
C'est plus des blagues.
Voilà. C'est ce qu'il nous fallait pour cranter, passer à un niveau supérieur, agrandir la boîte, faire en sorte qu'on aille toucher des marchés plus loin que la France.
Ouais.
On est hyper contents.
Ça me fait penser à ça, c'est que j'ai une amie qui a accouché, enfin qui est française et qui a accouché il y a pas très longtemps aux États-Unis et qui me racontait qu'apparemment là-bas c'est un désastre la rééducation du périnée chez les femmes. C'est qu'il y a en France, enfin moi en tout cas, ma femme qui a accouché, c'était un peu dans le parcours médical post-grossesse quoi, tu vois. Donc il y avait un vrai truc de ok, on va te faire taffer tes abdos et tu vas voir et on va essayer de te remettre à peu près d'équerre ton corps. Mais apparemment là-bas, il y a zéro info et en gros, ça a l'air d'être un vrai désastre chez toutes les femmes qui vivent avec ça toute leur vie et qui ne comprennent même pas pourquoi en fait, d'où ça vient.
Exactement. Aux États-Unis, c'est assez hallucinant. Bon, déjà, en France, on est très bien lotis de cette problématique parce qu'en plus, il y a donc une certaine éducation, il y a une certaine prise en charge aussi par la sécu.
De certaines... la sécu.
Voilà, ouais. Donc les femmes sont éduquées à la question. En effet, à l'étranger, c'est absolument pas pareil. Tu cites les États-Unis. Alors, les États-Unis, on parle beaucoup du corps, il faut être musclé, etc. Il faut avoir un beau corps, mais ça s'arrête aux abdos, hein, ça va plus bas.
Ou en tout cas, ça, si tu peux te muscler les cuisses, mais ce qui se passe entre deux, ça
faut arrêter, quoi. Voilà, les fessiers, c'est bien, avoir devant son dos. voilà, et donc, il y a une vraie question, en effet. Il y a même on a rencontré une personne qui avait écrit sur son blog, c'était une américaine en France, elle l'écrivait, c'est incroyable, j'ai accouché en France, vous savez pas ce qu'on m'a fait, entre guillemets, on me propose d'aller chez la sage-femme faire de la rééducation manuelle. Alors c'est vrai que c'est hyper, quand même, particulier. Mais voilà, c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup ailleurs. En Angleterre, c'est pareil, les femmes, elles accouchent le matin, elles sont le soir, elles sont chez elles, on leur parle jamais de leur périnée, d'un seul coup, elles courent et elles se demandent ce qui se passe. Donc, en fait, c'est un vrai sujet. Et moi, j'avoue que je suis tombée dedans parce qu'on a commencé à m'en parler. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on arrive au même titre que les règles, que le cancer du sein, que d'autres, en fait, problématiques qui sont arrivées maintenant à passer cette zone un peu plus tabou. Et maintenant, on commence un peu à en parler. Et c'est un peu dans la société. Les hommes commencent aussi à s'en emparer. Nous, on se bat vraiment au quotidien pour qu'on lève le tabou, qu'on puisse vraiment en parler. On a un blog. On essaie de faire parler aussi des femmes inspirantes. cette problématique. On essaye, on a lancé un podcast d'ailleurs aussi sur on s'appelle les femmes sages. En fait, on sponsorise ce podcast.
Okay. Bah, tu me diras, je mettrai les liens si tu veux. Comme ça t'amènera un peu de monde.
Bah, super. Bah, oui, c'est sponsorisé. On fait ça en partie avec Harmonie Mutuelle parce qu'ils sont aussi engagés des mutuelles sur la santé de la femme et sont interviewés en fait des femmes que des professionnels de santé. Donc en fait, c'est des sages-femmes, c'est des kinés, c'est des naturopathes, c'est des médecins un peu spécialistes sur la santé de la femme et qui s'engagent et qui parlent de leur relation à la santé de la femme. Et voilà, et en fait maintenant c'est un peu mon combat de tous les jours que de parler de ça, de faire en sorte que ça soit plus un tabou et qu'en fait c'est complètement normal d'avoir un périnée qui est un peu abîmé après un accouchement. C'est quand même une des plus belles choses dans la vie, je pense, de donner naissance à un enfant et derrière on a ça. Non, du coup il y a des solutions qui existent, on peut faire des choses et voilà, donc on se bat pour ça avec Amy ou avec peu importe. Il y a du cours de pilates qui existe, il y a de la gym, enfin il y a d'autres solutions qui existent.
Oui,
on n'est pas forcément obligé d'utiliser notre produit, mais voilà, on est assez.
Disons que tu as trouvé dans ton entreprise un vrai. Tu sais, les Américains, ce fameux gars qui parle du pourquoi. Vous avez trouvé un vrai pourquoi en fait, pourquoi votre boîte existe quoi.
Exactement, voilà, ouais. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que maintenant je t'ai engagé. Et je me dis qu'en fait c'est pas complètement par hasard sûrement que je tombe là-dedans. Quand même toujours là en étant dans le sport, une relation certaine avec le corps. J'ai jamais été féministe en tant que telle, mais j'ai toujours donné une place importante en tout cas aux femmes en me disant mais elles s'auto-censurent, pas possible, on peut faire quelque chose pour ces femmes. Enfin pas pour ces femmes, je veux dire juste pour que les femmes soient plus ancrée dans leur vie.
T'as pas été militante, mais ça fait partie de.
Voilà, ça fait partie de moi. Voilà, quoi. Exactement. Okay. Et donc, du coup, en fait, c'est un muscle qui est mis à mal quand on fait du sport. Et puis, finalement, c'est lié assez au tabou des femmes. Enfin, voilà. Et ça correspond assez bien, finalement, à moi. Et du coup, peut-être aussi pour ça que je le porte et que j'ai envie qu'il se développe. Hein.
Ok. C'est quoi l'avenir pour Physimed de cette-là et pour ce produit-là en particulier? Vous allez lancer d'autres produits autour de.
On est en cours. Justement, on a un pipe, comme on dit.
On a un pipe. On est dans un. Voilà. C'est un épisode spécial start-up aujourd'hui, hein, tu vois.
C'est ça.
Et encore, elle vous a pas parlé de série A.
C'est de. On les emploie souvent, mais pour ça, je suis pas fan non plus de tous ces mots-là, donc j'essaye.
C'est un peu. Si vous ne connaissez pas trop, mais c'est un peu du jargon lié au milieu des startups, etc. Donc toi, par exemple, tu es dans la... Comment on appelle ça? C'est la
MedTech.
La MedTech, ouais, voilà.
C'est ça, la technologie médicale.
Voilà. Voilà.
Et du coup, j'ai perdu le fil.
Tu disais que vous aviez un pipe. En fait, je me moquais.
Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, pipe de projet. Donc, on a d'autres produits qui vont sortir. Bon, pour l'instant, c'est encore en cours de R&D. On a notre application qui va continuer à se développer. Voilà, il y a des beaux projets qui nous ont vraiment envie de continuer. D'ailleurs, on a levé de l'argent pour ça, pour s'agrandir, pour développer la solution et puis voilà, pour continuer.
Aujourd'hui, vous êtes 12.
Oui.
Comment ça s'est passé dans votre boîte de passer de... Donc, vous étiez 4.
Oui.
À 12. J'imagine que c'est pas la même vie.
C'est clairement pas la même vie. Déjà à l'époque, quand on a eu une première table dans un espace de coworking, on était 4 sur cette table-là. On trouvait ça trop génial et tout d'avoir une table. On s'est agrandi, on a eu de nouveaux locaux. On a la chance d'avoir.
Vous êtes basé à Strasbourg, c'est ça?
À Strasbourg, c'est ça. On a la chance quand même d'avoir eu des personnes qui nous ont rejoints. Enfin, moi, je suis hyper fière de l'équipe qu'on a. C'est des personnes hyper engagées qui, justement, engagées sur les problématiques des femmes, mais assez, intègres aussi. Nous, on est des fondateurs. On vient tous de milieux assez ruraux, je dirais. On a un Vosgien, on a un Breton. Je suis franc-comtoise. On a un Alsacien. Donc voilà, les 4 fondateurs sont.
C'est un truc que vous revendiquez, c'est ça?
On le revendique pas spécialement, mais je trouve qu'en fait,
T'en parles comme ça.
Non, parce que c'est des régions qui sont souvent les Vosges. Un peu dénigré, et c'est souvent un peu rural, tu vois. C'est pas des gens qui ont des paillettes tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire. Et du coup, on est assez terre à terre chez nous. C'est plutôt ça que je voulais dire. On est assez terre à terre, mais du coup, c'est ce qui nous fait, je pense, avancer aussi de façon assez rapide. Et voilà. Donc maintenant, on a eu la chance justement d'avoir des gens qui avaient nos valeurs, qui nous ont rejoints. D'ailleurs, on est toujours en train de recruter. Là, on recrute deux personnes en ce moment. Donc c'est vrai que ça a changé d'échelle. Moi l'année dernière, j'ai eu un petit garçon. Donc en plus, je suis partie.
T'es partie en congé mat.
Voilà, je suis partie en congé mat. Alors, c'était un congé mat un peu particulier parce que, bien sûr, t'es derrière ton ordi chez toi, mais, mais ah, ça, voilà. Donc, c'est des phases aussi de la vie de l'entreprise qui sont un peu, et qui ont été très bien. Ça a servi aussi à l'entreprise de vivre différemment sans moi au quotidien.
Et toi, comment tu l'as vécu, le fait de laisser, entre guillemets, ta boîte aux garçons pendant quelques mois, là, comme ça, le temps de donner la vie, hein, pourquoi pas. Après tout, c'est un vrai beau projet aussi.
Ouais, c'est ça, c'est
mais
vrai.
Comment tu l'as vécu? C'était pas trop dur pour toi de quitter à ce moment-là?
En fait, ça a été assez bien parce que j'ai... Bon, on décide jamais vraiment quand est-ce qu'on tombe enceinte. Oui. Puis finalement, voilà, il y a quasiment un an, donc en février, okay. Je tombe enceinte et on devait lever justement notre fameux 1,5 million. En fait, en gros...
Ah, en plein dans la levée.
En plein dans la levée. En gros, moi, je suis tombée enceinte en février, on a closé en septembre et j'ai accouché en octobre.
Oh.
Voilà, donc ça a
donc été... c'est, en plus, c'est dans un moment particulier de la boîte. Enfin,
exactement.
Un vrai temps fort. Quoi.
Un vrai temps fort. Et en fait, c'était justement un. Alors, moi, je l'ai vécu un peu comme pas un side project, ma grossesse, mais j'ai eu la chance que tout s'est super bien passé.
Side project.
Un projet à côté, en tout cas, pour dire. En fait, j'ai eu de la chance, vraiment. J'ai super bien vécu ma grossesse. J'avais encore plus d'énergie, à la limite, pendant ces 9 mois. Mais du coup, j'avais. Préparer en fait cette après-levée, on avait pas mal structuré la boîte, justement on avait recruté aussi et c'était hyper important pour moi qu'au moment où je parte on sache exactement ce qu'allait se passer pendant les 3 prochains mois.
Okay.
On avait des objectifs hyper précis, voilà, on savait où on allait, je laissais l'équipe complètement, j'avais aucun problème et parce qu'en plus du coup voilà, on était arrivé au bout de cette levée de fonds et qui avait des gros enjeux pour développement de Physimène. Donc voilà, donc ça, cette étape là était passée, on avait fait notre contrat, maintenant on collabore avec Pierre Fabre, donc on avait Pierre Fabre avait c'est un laboratoire pharmaceutique. Ouais. Français. Les grosses échéances étaient passées et d'un seul coup, je sais pas, Grégoire est arrivé. Donc c'était nickel.
Grégoire qui est, j'imagine,
qui est
ton fiston.
Voilà, exactement.
Ok. Non, parce que et ton retour au travail, ça se passe bien?
Il faudrait leur demander en direct
je parle pour toi.
Moi, je suis super contente d'être venue.
Ouais.
Je pense que j'étais contente d'avoir eu aussi cette phase un petit peu à l'extérieur de la société. Mmh. Et chez moi, il s'est passé plein de choses aussi quand je travaillais. Du coup, j'ai vu plein de choses avec un angle différent. Je suis très contente d'être revenu. Maintenant, en plus, ma vie du coup, est beaucoup plus scindée entre mon fils et le boulot. Je trouve que voilà, on m'avait déjà dit tu seras beaucoup plus organisé, ça ira vachement mieux, mais c'est pas faux, c'est vrai. Okay. J'ai l'impression d'avoir un montant qui est un peu plus chronométré encore.
T'as l'impression vraiment d'avoir agi pour faire en sorte que ta vie soit plus timée. Enfin, l'enfant,
ouais,
de toute façon.
C'est ça, je sais.
À un moment donné, il est là.
Voilà, exactement, il est là, il ne faut pas l'oublier le soir.
Oui, c'est mieux.
Voilà. Mais non, j'ai la chance aussi d'avoir un compagnon hyper, hyper stable, qui est, du coup, ça m'aide beaucoup aussi dans cette gestion.
Ouais.
de ma vie professionnelle. Donc voilà, ça a été. Moi, je le vis plutôt bien.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai écouté quand même pas mal de podcasts de Clémentine Gallet.
Oui.
Qui est venue d'ailleurs.
Ouais. De Bliss.
De Bliss, ouais. Voilà. Parce que oui, il m'est arrivé, je me suis quand même posé pas mal de questions au moment de la levée. T'es enceinte, t'as une levée, qu'est-ce que tu le dis, tu le dis pas. Enfin, il y a quand même des questions qui se posent sur le sujet.
Et t'avais décidé de faire quoi alors, toi?
Alors du coup, moi, j'en ai pas forcément beaucoup parlé parce que je me disais, mais en fait, moi, c'est une question de jeu, c'est un projet personnel, d'une part. Mmh. Et puis en fait, moi, je savais que ça n'allait pas avoir d'impact sur la manière dont j'allais travailler. J'étais encore au bureau le mardi, j'ai accouché le week-end. Je savais que j'allais pouvoir travailler jusqu'au bout et en tout cas, j'avais la volonté. Si le corps et la santé me le permettaient, c'était,
ouais,
bon. Et en fait, le dire, c'était toujours un peu problématique. Je me disais, mince, si je le dis, ça va rentrer dans la case moins. Mais en fait, non, il faudrait pas parce que moi, franchement, ça va pas avoir d'impact. Je veux vraiment bosser jusqu'au bout. Mais quelle est la perception des investisseurs, qui sont souvent des mecs,
on y revient toujours.
Voilà, hein. Ils ont sûrement une perception des femmes enceintes différente parce que dans la société, on a quand même, voilà, une perception des femmes enceintes qui s'arrêtent et ce qui est normal, ils ont le droit et tout à fait, c'est très très bien. Mais voilà, donc c'est marrant parce que je m'étais toujours dit non, c'est bon, les femmes elles ont le droit d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, je me suis confrontée quand même à ce problème et je me suis dit mince. En fait, si je le dis, ça va rentrer dans un point de vue négatif, alors qu'en fait, je pense pas. Et c'était, je pense en plus, quelque chose d'assez positif, en fait, dans la vie de la boîte, dans ma vie.
C'est ce que
tu as
l'air de dire. Ça t'a permis de prendre un peu de recul à un moment donné.
Exactement. Okay. Et j'ai pu bosser jusqu'au bout. Je crois que franchement, la boîte n'a pas empathie. On a atteint nos objectifs. On les a même dépassés. Voilà. Donc voilà, donc j'avoue que bravo. Le podcast de Bliss, il faudra que j'aimerais bien rencontrer Clémentine.
Ah bah, je lui enverrai un petit message si tu veux.
Volontiers, merci.
Et si vous n'avez pas écouté, que vous écoutez Histoire de succès, je vous invite à écouter l'épisode, alors je ne sais plus quel est le numéro, mais en tout cas avec Clémentine qui justement fait ce podcast Bliss Stories où elle fait parler des femmes enceintes, de leur grossesse, enfin des femmes enceintes, elle parlait des femmes de leur grossesse
voilà, et de leur maternité. Ouais, voilà. C'est ça.
Ton idée à toi de dans 3 ans, à ton avis, toi, en tant que boss de Physimed, comment tu te vois évoluer dans la boîte?
Alors je vois surtout que Physimed en fait soit la référence de la santé de la femme et premièrement de la rééducation du périnée. Ça ce serait un objectif de la boîte et un objectif qui va un peu plus au-delà, c'est que dans 5 ans on arrête de penser que le périnée c'est tabou et que tout le monde sache que il faut s'en occuper, que c'est important, que il y a trop de femmes qui ont des descentes d'organes et qu'en fait faire une opération c'est pas cool. Voilà, et donc si on arrivait dans 5 ans, ou même dans certains pays, si on parle de l'international, même dans 10 ans, à parler du périnée et à arrêter de penser que c'est un sujet tabou, là, on aurait gagné. Et alors, bon, après, il y a encore une autre étape. Les hommes ont un périnée. Les hommes ont pas mal de problèmes de périnée aussi quand ils ont des cancers de la prostate ou autre. Donc, ça sera pas forcément le combat de Physimed, mais je me dis aussi que si à un moment donné, on arrivait aussi à ce que les hommes puissent en prendre conscience, ce serait top.
Et puis, c'est facile en même temps de travailler son périnée. Là, par exemple, je suis en train de le faire.
Voilà. Exactement. Voilà. C'est pas compliqué. Exactement.
Tu veux juste le contracter.
Voilà. C'est ça.
Très bien. Ben, en tout cas, Emeline, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Je mettrai tous les liens pour les gens qui souhaitent en savoir un peu plus sur la boîte, etc. Un grand merci à toi. Et puis, j'espère vraiment que ce podcast pourra inciter les gens à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe au niveau de leur périnée un peu après. Vous pouvez vous-même écouter ce podcast ou les podcasts d'une manière générale en travaillant votre périnée. C'est gratos. Voilà.
Exactement. On peut le faire à n'importe quel moment. On peut le faire tout seul. Exactement.
Merci beaucoup, Emeline.
Merci beaucoup, Fabrice.
Salut. Allez.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.